Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, depuis ce matin, je suis en train de préparer ce sermon. Un sermon difficile parce que je le veux simple. Et en même temps, j'ai été très dérangé. Je vais donc vous improviser un sermon pour ne pas vous laisser tout seul. Je sais que vous êtes nombreux à m'écouter le dimanche pour remplacer le serment des messes que vous n'avez pas, et donc je ne veux pas vous laisser sans rien. Je suis actuellement au milieu d'un groupe de jeunes adultes dont la plupart ne sont pas baptisés. Je vais leur dire la messe tout à l'heure. Pour la plupart, ce sera une grande découverte. Dans 15 jours, l'un d'eux sera baptisé et je leur donnerai une session sur le mariage parce que le même se mariera le 14 août. Et vous comprenez bien que je dois être parfaitement disponible pour eux. Hier, je suis passé à Lyon pour donner les derniers sacrements à un rapatrié d'Algérie. Vous connaissez mon amour pour l'Algérie, mais évidemment, c'est mon amour pour les âmes qui m'a incité à faire ce déplacement. Alors, la semaine prochaine, eh bien, je prendrai du temps pour faire un sermon bien étudié. Je l'enregistrerai d'avance, de manière à ce que vous puissiez bien en profiter. Je voulais vous parler de l'acédie, un terme bien compliqué, qui en réalité est assez simple. Et déjà, de ce que j'ai lu et glané dans mes lectures, je vous fais une série de sermons sur les vices de notre époque, et nous sommes toujours dans les vices par rapport à la charité. Et il y a quelque chose qui devrait être évident, à savoir que la charité devrait mettre en nous un enthousiasme tel qu'on ne devrait avoir aucune inquiétude, aucun découragement, aucune lassitude. Lassitude, oui, un petit peu, parce que tout est difficile ici-bas, bien entendu, mais aucune inquiétude, aucun découragement. L'amour de Dieu par-dessus toute chose. Si nous voulons l'étudier, faire de la théologie, en parler, cela peut devenir plus ou moins compliqué, mais si nous regardons Dieu, et surtout si nous regardons notre Seigneur Jésus-Christ, les choses deviennent très simples. Et saint Thomas d'Aquin nous dit que si nous nous décourageons, c'est parce que nous ne connaissons pas et surtout que nous n'aimons pas assez notre Seigneur Jésus-Christ, que nous ne sommes pas assez proches de lui. Et par lui, nous entrons dans le ciel. Et en même temps, il est tellement proche de nos conditions de vie. N'oubliez pas qu'il a exercé un métier avec son père saint Joseph, qu'il a connu toutes les conditions de notre vie. Une des difficultés que j'ai à vous faire ces sermons sur les vices de notre époque, c'est qu'il y a les vices des traditionalistes qui se sont laissés aller, il y a les vices de ceux qui ne sont pas baptisés et qui ont du mal à sortir du monde. C'est toujours les mêmes vices, mais pas la même manière, voyez, de tomber dedans. Par contre, c'est toujours le même remède. Le même remède, c'est d'aller à Dieu par Jésus-Christ. On va à Jésus-Christ, j'allais dire, en portant sa croix chaque jour. Mais à condition de porter sa croix, comme la Sainte Vierge a suivi notre Seigneur jusqu'au calvaire, c'est-à-dire vraiment par amour de Dieu. Et si nous ne comprenons pas le mystère de la croix, et si nous ne comprenons pas le mystère de la vie ici-bas, et si nous ne comprenons pas le mystère du péché, qui est très concret pour nous, puisque c'est le mondialisme qui nous touche, c'est la crise dans l'Église, c'est toutes les difficultés modernes dans lesquelles nous nous débattons, dans lesquelles nous vivons. Ce n'est pas un mystère du péché théorique, c'est le péché qui nous touche et qui touche nos familles. Alors, les traditionalistes se demandent ce que Dieu attend d'eux dans ces circonstances. Les jeunes avec lesquels je suis, qui se disent nationalistes, mais j'aime pas trop ce terme qui est très réducteur, se demandent comment ils vont restaurer la France chrétienne. Tout cela, ce sont des inquiétudes, et il faut faire confiance. Confiance à Dieu. Il faut avoir confiance dans la puissance de notre Seigneur, confiance dans la puissance de la croix, confiance dans la puissance de la grâce, confiance dans la puissance de notre fidélité à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous posons trop de questions, nous sommes trop inquiets. Et comme nous avons été très profondément déformés par des siècles de vie sans Dieu, ou des siècles qui se détournaient de Dieu, des siècles dans lesquels on nous a noyés dans des considérations terrestres, la rééducation est très difficile. Et le ciel en est conscient, c'est pourquoi la Très Sainte Vierge est venue à Fatima nous donner un remède, à savoir le chapelet, le rosaire. Parce que le rosaire est une contemplation qui nous met en contact avec Dieu et en même temps qui nous met en contact avec les mystères terrestres humains de notre Seigneur, la vie concrète, humaine de notre Seigneur. Et je ne sais pas si vous avez remarqué que la Sainte Vierge à Fatima n'a pas donné comme remède la messe, mais elle a donné le chapelet. Or, pourtant, il semblerait que la messe soit plus importante que le chapelet. La preuve, c'est que Mgr Lefebvre a beaucoup insisté sur la messe et pas tant que cela sur le chapelet. Mgr Williamson, lui, à l'inverse, insiste beaucoup plus sur le chapelet que sur la messe. Pourquoi cela? Parce que la messe est ce qui nous introduit dans le mystère de la croix. La messe nous met au pied de la croix, à côté de la Très Sainte Vierge, avec notre Seigneur Jésus-Christ. Or, aujourd'hui, il y a de moins en moins de messes célébrées dans le monde. Il y a surtout de plus en plus de prêtres qui, même s'ils disent la messe, ont une doctrine dangereuse, ce qui fait que, bien que la messe soit valide, il est préférable de ne pas y assister. Or, le chapelet nous met lui aussi au pied de la croix et nous met dans des messes spirituelles, si je puis dire ainsi. Sans être un sacrement, bien entendu, sans être un sacrement, le chapelet nous met au pied de la croix. Évidemment, avec le chapelet, on ne peut pas communier sacramentellement. Mais vous vous rappelez ce que je vous ai dit, déjà à la suite de saint Thomas d'Aquin, il y a la communion spirituelle, plutôt toute communion est spirituelle. Et la communion sacramentelle n'a de raison d'être que pour engendrer en nous, pour créer en nous une union spirituelle, une communion spirituelle. S'il n'y avait que la communion sacramentelle sans la communion spirituelle, ce serait un sacrilège. Eh bien, le bon Dieu, dans sa grande bonté, peut créer la communion spirituelle sans passer par la communion sacramentelle, et il le fait par le chapelet. Il le fait également par le chemin de croix. Mais le chapelet est plus complet parce qu'on part des mystères de la vie de notre Seigneur, les mystères de l'enfance, pour aller jusque à la résurrection et même la Pentecôte et le couronnement de la Sainte Vierge. Le but de ces sermons n'est pas d'abord de vous rappeler une fois de plus qu'il faut dire son chapelet tous les jours et le rosaire si on peut, comme le recommandait Mgr Williamson, le recommande toujours Mgr Williamson, ou comme mon père le faisait, surtout depuis qu'il était à la retraite. Parce qu'on va dire, oh mais ça nous le savons, c'est pas la peine de le rappeler encore une fois. Non, le but de ce sermon est de vous montrer, de vous rappeler qu'il faut ramener au chapelet toutes les questions que nous nous posons, tous les soucis que nous avons, toutes les inquiétudes, et cela avec confiance, sachant que la Sainte Vierge réglera tout cela, qu'elle fera porter du fruit, même si nous ne voyons pas bien comment. Il y a une simplicité dans la vie chrétienne que nous avons tendance à oublier. Évidemment, il est peut-être dangereux d'insister sur la simplicité de la vie chrétienne parce que on pourrait peut-être nourrir justement la sédie dont je veux vous parler et puis une certaine tiédeur. C'est pour ça que je voulais étudier ce sermon à fond avant de le faire vraiment, mais vous ne perdez rien pour attendre. Au contraire, cependant, si je vous prêche le chapelet et le remède à ce vice de la sédie, remède qui est donné par saint Thomas d'Aquin, mais donné par Mgr Lefebvre qui insistait beaucoup là-dessus, à savoir l'incarnation du Fils de Dieu, ben, tout passe par l'incarnation du Fils de Dieu. Donc il faut nous unir à Jésus-Christ, le Verbe incarné. Cette union est nécessairement une union d'abord spirituelle, et dans les conditions de vie ici-bas, l'union spirituelle va faire que, concrètement, nos vies vont être des vies chrétiennes. Vous savez, c'est un petit peu pour nous la même chose, hein? Nous les prêtres, qu'est-ce que Dieu nous demande aujourd'hui? S'il nous demande, il nous demande l'apostolat, bien entendu. Quel apostolat? L'apostolat que nous faisons auprès des traditionnalistes? Eh bien, hélas, nous avons beaucoup de déceptions. Ce n'est évidemment pas cela qu'il faut regarder. On ne regarde pas les déceptions. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a beaucoup de joie, mais ce n'est pas non plus la joie, c'est la fidélité qui compte. Et puis le bon Dieu nous envoie cet apostolat comme celui que je fais ce week-end. On pourrait se dire, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Il n'est pas possible que cette goutte d'eau suffise. Si on part dans de telles considérations, on est perdu. Et c'est le problème de beaucoup de nationalistes qui veulent faire de la politique. Et puis cette politique telle qu'ils l'envisagent ne peut porter aucun fruit. Et pourtant, il faut bien faire quelque chose. Et il faudrait qu'ils se rendent compte que le plus grand acte politique qu'ils puissent faire, c'est de réciter le chapelet. Et puis, ça va être le mot de la fin, tous nos anciens amis traditionnalistes, notamment de la Fraternité Saint-Pinis. Vous allez me dire, ils disent le chapelet tous les jours. Oui, peut-être. Mais s'ils sont encore à chercher plus ou moins un accord avec la Rome apostate, c'est qu'ils ne rapportent pas les choses au chapelet, parce que lorsque vraiment on médite dans le rosaire les mystères de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, les mystères de la Très Sainte Vierge, on devrait voir à l'évidence l'incompatibilité totale de ce que propose l'Église moderne aux traditionalistes avec ce que propose notre Seigneur Jésus-Christ. Il y en a beaucoup qui ont refusé d'entendre le discours et les explications que nous leur donnions et que leur donnait Mgr Lefebvre. Il ne nous reste qu'à leur dire, ouvrez les yeux et voyez que l'incompatibilité, voyez l'opposition entre ce que vous propose l'Église moderne, même si elle doit vous donner des évêques plus ou moins traditionnalistes comme il en est question, voyez l'opposition totale entre la direction qu'elle veut vous faire suivre, et la direction que notre Seigneur veut vous faire suivre. Même lorsqu'il est plus ou moins conservateur, plus ou moins chrétien, le langage de l'Église moderne, ce n'est pas le langage de la croix. Au contraire, le langage de Mgr Lefebvre, c'est celui de Jésus-Christ, c'est le langage de la croix. Je vous laisse sur ces considérations, mes bien chers frères. Elles valent ce qu'elles valent dans leur demi-improvisation, mais elles sortent du cœur. Et surtout, si vous vous mettez à l'école de la Très Sainte Vierge et de notre Seigneur Jésus-Christ, les choses les plus simples acquerront une très grande richesse. Que Jésus-Christ vous bénisse par les mains de Marie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.